Honoré de Balzac, Le contrat de mariage. Dédié à G. Rossini. Monsieur de Manerville, le père, était un bon gentilhomme normand, bien connu du maréchal de Richelieu, qui lui fit épouser une des plus riches héritières de Bordeaux, dans le temps où le vieux duc y alla trôner en sa qualité de gouverneur de Guyenne. Le Normand vendit les terres qu'il possédait en Bessin et se fit gascon, séduit par la beauté du château de Lanstrac, délicieux séjour qui appartenait à sa femme. Dans les derniers jours du règne de Louis XV, il acheta la charge de major des gardes de la porte et vécut jusqu'en 1813, après avoir fort heureusement traversé la Révolution. Voici comment. Il alla vers la fin de l'année 1790 à la Martinique, où sa femme avait des intérêts, et confia la gestion de ses biens de Gascogne à un honnête clerc de notaire, appelé Mathias, qui donnait alors dans les idées nouvelles. À son retour, le comte de Manerville trouva ses propriétés intactes et profitablement gérées. Ce savoir-faire était un fruit produit par la greffe du Gascon sur le Normand. Madame de Manerville mourut en 1810. Instruit de l'importance des intérêts par les dissipations de sa jeunesse, et comme beaucoup de vieillards, leur accordant plus de place qu'ils n'en ont dans la vie, monsieur de Manerville devint progressivement économe, avare et ladre. Sans songer que l'avarice des pères prépare la prodigalité des enfants. Il ne donna presque rien à son fils, encore que ce fût un fils unique. Paul de Manerville, revenu vers la fin de l'année 1810 du collège de Vendôme, resta sous la domination paternelle pendant 3 années. La tyrannie que fit peser sur son héritier un vieillard de 79 ans influa nécessairement sur un cœur et sur un caractère qui n'étaient pas formés. Sans manquer de ce courage physique qui semble être dans l'air de la Gascogne, Paul n'osa lutter contre son père et perdit cette faculté de résistance qui engendre le courage moral. Ses sentiments comprimés allèrent au fond de son cœur, où il les garda longtemps sans les exprimer. Puis, plus tard, quand il les sentit en désaccord avec les maximes du monde, il put bien penser et mal agir. Il se serait battu pour un mot et tremblait à l'idée de renvoyer un domestique, car sa timidité s'exerçait dans les combats qui demandent une volonté constante. Capable de grandes choses pour fuir la persécution, il ne l'aurait ni prévenu par une opposition systématique, ni affronté par un déploiement continu de ses forces. Lâche en pensée, hardi en action, il conserva longtemps cette candeur secrète qui rend l'homme la victime et la dupe volontaire de choses contre lesquelles certaines âmes hésitent à s'insurger, aimant mieux les souffrir que de s'en plaindre. Il était emprisonné dans le vieil hôtel de son père, car il n'avait pas assez d'argent pour frayer avec les jeunes gens de la ville. Il enviait leurs plaisirs sans pouvoir les partager. Le vieux gentilhomme le menait chaque soir dans une vieille voiture, traînée par de vieux chevaux mal attelés, accompagnée de ses vieux laquais mal habillés, dans une société royaliste, composée des débris de la noblesse parlementaire et de la noblesse d'épée. Réunis depuis la Révolution pour résister à l'influence impériale, ces deux noblesses s'étaient transformées en une aristocratie territoriale. Écrasée par les hautes et mouvantes fortunes des villes maritimes, ce faubourg Saint-Germain de Bordeaux répondait par son dédain au faste qu'étalait alors le commerce, les administrations et les militaires. Trop jeune pour comprendre les distinctions sociales et les nécessités cachées sous l'apparente vanité qu'elles créent, Paul s'ennuyait au milieu de ses antiquités, sans savoir que plus tard, ses relations de jeunesse lui assureraient cette prééminence aristocratique que la France aimera toujours. Il trouvait de légères compensations à la maussaderie de ses soirées dans quelques exercices qui plaisent aux jeunes gens, car son père les lui imposait. pour le vieux gentilhomme, savoir manier les armes, être excellent cavalier, jouer à la paume, acquérir de bonnes manières, enfin la frivole instruction des seigneurs d'autrefois, constituait un jeune homme accompli. Paul faisait donc tous les matins des armes, allait au manège et tirait le pistolet. Le reste du temps, il l'employait à lire des romans. Car son père n'admettait pas les études transcendantes par lesquelles se terminent aujourd'hui les éducations. Une vie si monotone eût tué ce jeune homme, si la mort de son père ne l'eût délivré de cette tyrannie au moment où elle était devenue insupportable. Paul trouva des capitaux considérables accumulés par l'avarice paternelle et des propriétés dans le meilleur état du monde. Mais il avait Bordeaux en horreur et n'aimait pas davantage Lanstrac, où son père allait passer tous les étés et le menait à la chasse du matin au soir. Dès que les affaires de la succession furent terminées, le jeune héritier, avide de jouissance, acheta des rentes avec ses capitaux, laissa la gestion de ses domaines au vieux Mathias, le notaire de son père, et passa 6 années loin de Bordeaux. Attaché d'ambassade à Naples, d'abord, il alla plus tard comme secrétaire à Madrid, à Londres, et fit ainsi le tour de l'Europe. Après avoir connu le monde, après s'être dégrisé de beaucoup d'illusions, après avoir dissipé les capitaux liquides que son père avait amassés, il vint un moment où, pour continuer son train de vie, Paul dut prendre les revenus territoriaux que son notaire lui avait accumulés. En ce moment critique, saisi par une de ses idées prétendues sages, il voulut quitter Paris, revenir à Bordeaux, diriger ses affaires, mener une vie de gentilhomme à Lanstrac, améliorer ses terres, se marier et arriver un jour à la députation. Paul était comte. La noblesse redevenait une valeur matrimoniale. Il pouvait et devait faire un bon mariage. Si beaucoup de femmes désirent épouser un titre, beaucoup plus encore veulent un homme à qui l'entente de la vie soit familière. Or, Paul avait acquis pour une somme de 700 000 francs, mangée en 6 ans, cette charge qui ne se vend pas et qui vaut mieux qu'une charge d'agent de change, qui exige aussi de longues études, un stage, des examens, des connaissances, des amis, des ennemis, une certaine élégance de taille, certaines manières, un nom facile et gracieux à prononcer. Une charge qui, d'ailleurs, rapporte des bonnes fortunes, des duels, des paris perdus aux courses, des déceptions, des ennuis, des travaux, et force plaisirs indigestes. Il était enfin un homme élégant. Malgré ses folles dépenses, il n'avait pu devenir un homme à la mode. Dans la burlesque armée des gens du monde, l'homme à la mode représente le maréchal de France. L'homme élégant équivaut à un lieutenant général. Paul jouissait de sa petite réputation d'élégance et savait la soutenir. Ses gens avaient une excellente tenue, ses équipages étaient cités, ses soupers avaient quelque succès. Enfin, sa garçonnière était comptée parmi les 7 ou 8 dont le faste égalait celui des meilleures maisons de Paris. Mais il n'avait fait le malheur d'aucune femme. Mais il jouait sans perdre. Mais il avait du bonheur sans éclat. Mais il avait trop de probité pour tromper qui que ce fût, même une fille. Mais il ne laissait pas traîner ses billets doux et n'avait pas un coffre aux lettres d'amour dans lequel ses amis pussent puiser en attendant qu'il eût fini de mettre son col ou de se faire la barbe. Mais ne voulant point entamer ses terres de Guyenne, il n'avait pas cette témérité qui conseille de grands coups et attire l'attention à tout prix sur un jeune homme. Mais il n'empruntait d'argent à personne et avait le tort d'en prêter à des amis qui l'abandonnaient et ne parlaient plus de lui ni en bien ni en mal. Il semblait avoir chiffré son désordre. Le secret de son caractère était dans la tyrannie paternelle qui avait fait de lui comme un métis social. Donc, un matin, il dit à l'un de ses amis, nommé de Marsay, qui depuis devint illustre, « Mon cher ami, la vie a un sens. »« Il faut être arrivé à 27 ans pour la comprendre, répondit railleusement de Marsay. Oui, j'ai 27 ans, et précisément à cause de mes 27 ans, je veux aller vivre à Lanstrac en gentilhomme. J'habiterai Bordeaux, où je transporterai mon mobilier de Paris, dans le vieil hôtel de mon père, et viendrai passer 3 mois d'hiver ici, dans cette maison que je garderai. Et tu te marieras ?
Et je me marierai.
Je suis ton ami, mon gros Paul, tu le sais, dit de Marsay après un moment de silence. Eh bien, sois bon père et bon époux. Tu deviendras ridicule pour le reste de tes jours. Si tu pouvais être heureux et ridicule, la chose devrait être prise en considération. Mais tu ne seras pas heureux. Tu n'as pas le poignet assez fort pour gouverner un ménage. Je te rends justice. Tu es un parfait cavalier. Personne mieux que toi ne sait rendre et ramasser les guides, faire piaffer un cheval et rester vissé sur ta selle. Mais, mon cher, le mariage est une autre allure. Je te vois d'ici, mené grand train par Madame la Comtesse de Manerville, allant contre ton gré plus souvent au galop qu'au trot, et bientôt désarçonné. Oh, mais désarçonné de manière à demeurer dans le fossé, les jambes cassées. Écoute, il te reste 40 et quelques 1000 livres de rente en propriété dans le département de la Gironde. Bien. Emmène tes chevaux et tes gens, meuble ton hôtel à Bordeaux, tu seras le roi de Bordeaux. Tu y promulgueras les arrêts que nous porterons à Paris. Tu seras le correspondant de nos stupidités. Très bien. Fais des folies en province, fais-y même des sottises, encore mieux. Peut-être gagneras-tu de la célébrité. Mais ne te marie pas. Qui se marie aujourd'hui ? Des commerçants, dans l'intérêt de leur capitale, ou pour être deux à tirer la charrue. Des paysans qui veulent, en produisant beaucoup d'enfants, se faire des ouvriers. Des agents de change ou des notaires obligés de payer leurs charges. De malheureux rois qui continuent de malheureuses dynasties. Nous sommes seuls exemples du bas, et tu vas t'en harnacher ? Enfin, pourquoi te maries-tu ? Tu dois compte de tes raisons à ton meilleur ami. D'abord, quand tu épouserais une héritière aussi riche que toi, 80 000 livres de rente pour deux ne sont pas la même chose que 40 000 livres de rente pour un, parce qu'on se trouve bientôt 3 et 4 s'il nous arrive un enfant. Aurais-tu par hasard de l'amour pour cette sotte race des Manerville qui ne te donnera que des chagrins ? Tu ignores donc le métier de père et mère. Le mariage, mon gros Paul, est la plus sotte des immolations sociales. Nos enfants seuls en profitent et n'en connaissent le prix qu'au moment où leurs cheveux paissent les fleurs nées sur nos tombes. Regrettes-tu ton père, ce tyran qui t'a désolé ta jeunesse ? Comment t'y prendras-tu pour te faire aimer de tes enfants ? Tes prévoyances pour leur éducation, les soins de leur bonheur, tes sévérités nécessaires les désaffectionneront. Les enfants aiment un père prodigue ou faible qu'ils mépriseront plus tard. Tu seras donc entre la crainte et le mépris. N'est pas bon père de famille qui veut. Tourne les yeux sur nos amis et dis-moi ceux de qui tu voudrais pour fils. Nous en avons connu qui déshonoraient leur nom. Les enfants, mon cher, sont des marchandises très difficiles à soigner. Les tiens seront des anges, soit. As-tu jamais sondé l'abîme qui sépare la vie du garçon de la vie de l'homme marié ? Écoute, garçon, tu peux te dire, je n'aurai que telle somme de ridicule. Le public ne pensera de moi que ce que je lui permettrai de penser. Marié, tu tombes dans l'infini du ridicule. Garçon, tu te fais ton bonheur, tu en prends aujourd'hui, tu t'en passes demain. Marié, tu le prends comme il est, et le jour où tu en veux, tu t'en passes. Marié, tu deviens ganache, tu calcules des dots, tu parles de morale publique et religieuse, tu trouves les jeunes gens immoraux, dangereux. Enfin, tu deviendras un académicien social. Tu me fais pitié. Le vieux garçon dont l'héritage est attendu, qui se défend à son dernier soupir contre une vieille garde à laquelle il demande vainement à boire, est un béat en comparaison de l'homme marié. Je ne te parle pas de tout ce qui peut advenir de tracassant, d'ennuyant, d'impatientant, de tyrannisant, de contrariant, de gênant, d'idiotisant, de narcotique et de paralytique, dans le combat de deux êtres toujours en présence, liés à jamais, et qui se sont attrapés tous deux en croyant se convenir. Non, ce serait recommencer la satire de Boileau, nous la savons par cœur. Je te pardonnerais ta pensée ridicule si tu me promettais de te marier en grand seigneur, d'instituer un majorat avec ta fortune, de profiter de la lune de miel pour avoir deux enfants légitimes, de donner à ta femme une maison complète distincte de la tienne, de ne vous rencontrer que dans le monde et de ne jamais revenir de voyage sans te faire annoncer par un courrier. 200 000 livres de rente suffisent à cette existence, et tes antécédents te permettent de la créer au moyen d'une riche Anglaise affamée d'un titre. Cette vie aristocratique me semble vraiment française. La seule grande, la seule qui nous obtienne le respect, l'amitié d'une femme, la seule qui nous distingue de la masse actuelle, enfin la seule pour laquelle un jeune homme puisse quitter la vie de garçon. Ainsi posé, le comte de Manerville conseille son époque, se met au-dessus de tout et ne peut plus être que ministre ou ambassadeur. Le ridicule ne l'atteindra jamais. Il a conquis les avantages sociaux du mariage et garde les privilèges du garçon.
Mon bon ami, je ne suis pas de Marsay. Je suis tout bonnement, comme tu me fais l'honneur de le dire toi-même, Paul de Manerville. Bon père et bon époux, député du centre et peut-être pair de France, destiné excessivement médiocre. Mais je suis modeste, je me résigne.
Et ta femme, dit l'impitoyable de Marsay, se résignera-t-elle?
Ma femme, mon cher, fera ce que je voudrais.
Ah, mon pauvre ami, tu en es encore là.
Adieu, Paul. Dès aujourd'hui, je te refuse mon estime.
Encore un mot, car je ne saurais souscrire froidement à ton abdication. Vois donc où gît la force de notre position. Un garçon, n'eût-il que 6 000 livres de rente, ne lui resta-t-il pour toute fortune que sa réputation d'élégance, que le souvenir de ses succès? Eh bien, cette ombre fantastique comporte d'énormes valeurs. La vie offre encore des chances à ce garçon d'étain. Oui, ses prétentions peuvent tout embrasser. Mais le mariage, Paul, c'est le « tu n'iras pas plus loin » social. Marié, tu ne pourras plus être que ce que tu seras, à moins que ta femme ne daigne s'occuper de toi.
Mais, dit Paul, tu m'écrases toujours sous des théories exceptionnelles. Je suis là de vivre pour les autres, d'avoir des chevaux pour les montrer, de tout faire en vue du qu'en dira-t-on, de me ruiner pour éviter que des nièces écrient « Tiens, Paul a toujours la même voiture, où en est-il de sa fortune? Il la mange? Il joue à la bourse? Non, il est millionnaire. Madame, une telle est folle de lui. Il a fait venir d'Angleterre un attelage, qui certes est le plus beau de Paris. » On a remarqué à Longchamp les calèches à 4 chevaux de messieurs de Marsay et de Manerville. Elles étaient parfaitement attelées. Enfin, 1000 niaiseries avec lesquelles une masse d'imbéciles nous conduit. Je commence à voir que cette vie où l'on roule au lieu de marcher nous use et nous vieillit. Crois-moi, mon cher Henri, j'admire ta puissance, mais sans l'envier. Tu sais tout juger. Tu peux agir et penser en homme d'État. Te placer au-dessus des lois générales, des idées reçues, des préjugés admis, des convenances adoptées. Enfin, tu perçois les bénéfices d'une situation dans laquelle je n'aurai, moi, que des malheurs. Tes déductions froides, systématiques, réelles peut-être, sont aux yeux de la masse d'épouvantables immoralités. Moi, j'appartiens à la masse. Je dois jouer le jeu selon les règles de la société dans laquelle je suis forcé de vivre. En te mettant au sommet des choses humaines, sur ces pics de glace, tu trouves encore des sentiments. Mais moi, j'y gèlerai. La vie de ce plus grand nombre auquel j'appartiens bourgeoisement se compose d'émotions dont j'ai maintenant besoin. Souvent un homme à bonne fortune coquette avec 10 femmes, et n'en a pas une seule. Puis, quelle que soit sa force, son habileté, son usage du monde, il survient des crises où il se trouve comme écrasé entre 2 portes. Moi, j'aime l'échange constant et doux de la vie. Je veux cette bonne existence où vous trouvez toujours une femme près de vous.
« C'est un peu leste, le mariage !»
s'écria de Marsay. Paul ne se décontenança pas et dit en continuant « Ris si tu veux. Moi, je me sentirai l'homme le plus heureux du monde quand mon valet de chambre entrera me disant « Madame attend monsieur pour déjeuner. » Quand je pourrai, le soir en rentrant, trouver un cœur.
« Toujours trop leste, Paul ! Tu n'es pas assez moral pour te marier. »
Un cœur à qui confier mes affaires et dire mes secrets. Je veux vivre assez intimement avec une créature pour que notre affection ne dépende pas d'un oui ou d'un non, d'une situation où le plus joli homme cause des désillusionnements à l'amour. Enfin, j'ai le courage nécessaire pour devenir, comme tu le dis, bon père et bon époux. Je me sens propre aux joies de la famille et veux me mettre dans les conditions exigées par la société pour avoir une femme, des enfants.
Tu me fais l'effet d'un panier à mouches à miel. Marche, tu seras une dupe toute ta vie.
Ah, tu veux te marier pour avoir une femme. En d'autres termes, tu veux résoudre heureusement, à ton profit, le plus difficile des problèmes que présentent aujourd'hui les mœurs bourgeoises créées par les révolutions françaises. Et tu commenceras par une vie d'isolement. Crois-tu que ta femme ne voudra pas de cette vie que tu méprises? En aura-t-elle, comme toi, le dégoût? Si tu ne veux pas de la belle conjugalité dont le programme vient d'être formulé par ton ami de Marsay, écoute un dernier conseil. Reste encore garçon pendant 13 ans. Amuse-toi comme un damné. Puis, à 40 ans, à ton premier accès de goutte, épouse une veuve de 36 ans. Tu pourras être heureux. Si tu prends une jeune fille pour femme, tu mourras enragé.
Ah, ça ? Dis-moi pourquoi ?
S'écria Paul un peu piqué. Mon cher, répondit de Marsay, la satire de Boileau contre les femmes est une suite de banalités poétisées. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas des défauts? Pourquoi les déshériter de l'avoir le plus clair de la nature humaine? Aussi, selon moi, le problème du mariage n'est-il plus là où se critique l'ami? Crois-tu donc qu'il en soit du mariage comme de l'amour, et qu'il suffise à un mari d'être homme pour être aimé? Tu vas donc dans les boudoirs pour n'en rapporter que de ressouvenirs? Tout dans notre vie de garçon prépare une fatale erreur à l'homme marié qui n'est pas un profond observateur du cœur humain. Dans les heureux jours de sa jeunesse, un homme, par la bizarrerie de nos mœurs, donne toujours le bonheur. Il triomphe de femmes toutes séduites qui obéissent à des désirs. De part et d'autre, les obstacles que créent les lois, les sentiments et la défense naturelle à la femme engendre une mutualité de sensations qui trompe les gens superficiels sur leurs relations futures en état de mariage, où les obstacles n'existent plus, où la femme souffre l'amour au lieu de le permettre, repousse souvent le plaisir au lieu de le désirer. Là, pour nous, la vie change d'aspect. Le garçon libre et sans soin, toujours agresseur, n'a rien à craindre d'un insuccès. En état de mariage, un échec est irréparable. S'il est possible à un amant de faire revenir une femme d'un arrêt défavorable, ce retour, mon cher, est le Waterloo des maris. Comme Napoléon, le mari est condamné à des victoires, qui, malgré leur nombre, n'empêchent pas la première défaite de le renverser. La femme, si flattée de la persévérance, si heureuse de la colère d'un amant, les nomme brutalité chez un mari.
si le garçon choisit son terrain, si tout lui est permis. Tout est défendu à un maître, et son champ de bataille est invariable. Puis, la lutte est inverse. Une femme est disposée à refuser ce qu'elle doit, tandis que, maîtresse, elle accorde ce qu'elle ne doit point. Toi qui veux te marier et qui te marieras, as-tu jamais médité sur le code civil? Je ne me suis point sali les pieds dans ce bouge à commentaires, dans ce grenier à bavardage, appelé l'école de droit. Je n'ai jamais ouvert le code, mais j'en vois les applications sur le vif du monde. Je suis légiste comme un chef de clinique et médecin. La maladie n'est pas dans les livres, elle est dans le malade. Le code, mon cher, a mis la femme en tutelle. Il l'a considérée comme un mineur, comme un enfant. Or, comment gouverne-t-on les enfants? Par la crainte. Dans ce mot, Paul est le mort de la bête. Tâte-toi le pouls. Vois si tu peux te déguiser en tyran, toi, si doux, si bon ami, si confiant. Toi de qui j'ai ri d'abord, et que j'aime assez aujourd'hui pour te livrer ma science. Oui, ceci procède d'une science que déjà les Allemands ont nommée anthropologie. Ah, si je n'avais pas résolu la vie par le plaisir, si je n'avais pas une profonde antipathie pour ceux qui pensent au lieu d'agir, si je ne méprisais pas les niais assez stupides pour croire à la vie d'un livre, quand les sables des déserts africains sont composés des cendres de je ne sais combien de Londres, de Venise, de Paris, de Rome inconnues, pulvérisées, j'écrirais un livre sur les mariages modernes, sur l'influence du système chrétien. Enfin, je mettrais un lampion sur ce tas de pierres aiguës, parmi lesquelles se couchent les sectateurs du multiplicamini social. Mais l'humanité vaut-elle un quart d'heure de mon temps? Puis, le seul emploi raisonnable de l'encre n'est-il pas de piper les cœurs par des lettres d'amour? Hé, nous amèneras-tu la comtesse de Manerville? Peut-être, dit Paul. Nous resterons amis, dit de Marsay. Si, répondit Paul. Sois tranquille, nous serons polis avec toi, comme la Maison Rouge avec les Anglais à Fontenoy. Quoique cette conversation l'eût ébranlé, le comte de Manerville se mit en devoir d'exécuter son dessein et revint à Bordeaux pendant l'hiver de l'année 1821. Les dépenses qu'il fit pour restaurer et meubler son hôtel soutinrent dignement la réputation d'élégance qui le précédait. Introduit d'avance par ses anciennes relations dans la société royaliste de Bordeaux, à laquelle il appartenait par ses opinions autant que par son nom et par sa fortune, il y obtint la royauté fashionable. Son savoir-vivre, ses manières, son éducation parisienne enchantèrent le faubourg Saint-Germain bordelais. Une vieille marquise se servit d'une expression jadis en usage à la cour pour désigner la florissante jeunesse des beaux, des petits maîtres d'autrefois, et dont le langage, les façons, faisaient loi. Elle dit de lui qu'il était « la fleur des pois ». La société libérale ramassa le mot, en fit un surnom, pris par elle en moquerie, et par les royalistes en bonne part. Paul de Manerville acquitta glorieusement les obligations que lui imposait son surnom. Il lui advint ce qui arrive aux acteurs médiocres. Le jour où le public leur accorde son attention, ils deviennent presque bons. En se sentant à son aise, Paul déploya les qualités que comportaient ses défauts. Sa raillerie n'avait rien d'âpre ni d'amère, ses manières n'étaient point hautaines. Sa conversation avec les femmes exprimait le respect qu'elles aiment, ni trop de déférence, ni trop de familiarité. Sa fatuité n'était qu'un soin de sa personne qui le rendait agréable. Il avait égard au rang, il permettait aux jeunes gens un laisser-aller auquel son expérience parisienne posait des bornes. Quoique très fort au pistolet et à l'épée, il avait une douceur féminine dont on lui savait gré. Sa taille moyenne et son embonpoint qui n'arrivait pas encore à l'obésité, deux obstacles à l'élégance personnelle, n'empêchaient point son extérieur d'aller à son rôle de Brummel bordelais. un teint blanc rehaussé par la coloration de la santé, de belles mains, un joli pied, des yeux bleus à longs cils, des cheveux noirs, des mouvements gracieux, une voix de poitrine qui se tenait toujours au médium et vibrait dans le cœur, tout en lui s'harmoniait avec son surnom. Paul était bien cette fleur délicate qui veut une soigneuse culture, dont les qualités ne se déploient que dans un terrain humide et complaisant, que les façons dures empêchent de s'élever, que brûle un trop vif rayon de soleil, et que la gelée abat. Il était un de ces hommes faits pour recevoir le bonheur plus que pour le donner, qui tiennent beaucoup de la femme, qui veulent être devinés, encouragés, enfin pour lesquels l'amour conjugal doit avoir quelque chose de providentiel. Si ce caractère crée des difficultés dans la vie intime, il est gracieux et plein d'attrait pour le monde. Aussi, Paul eut-il de grands succès dans le cercle étroit de la province, où son esprit, tout en demi-teinte, devait être mieux apprécié qu'à Paris. L'arrangement de son hôtel et la restauration du château de Lanstrac, où il introduisit le luxe et le confort anglais, absorbèrent les capitaux que depuis 6 ans lui plaçait son notaire. Strictement réduit à ses 40 et quelques 1000 livres de rente, il crut être sage en ordonnant sa maison de manière à ne rien dépenser au-delà. Quand il eut officiellement promené ses équipages, traité les jeunes gens les plus distingués de la ville, fait des parties de chasse avec eux dans son château restauré, Paul comprit que la vie de province n'allait pas sans le mariage. Trop jeune encore pour employer son temps aux occupations avaricieuses ou s'intéresser aux améliorations spéculatrices dans lesquelles les gens de province finissent par s'engager et que nécessite l'établissement de leurs enfants, il éprouva bientôt le besoin des changeantes distractions dont l'habitude devient la vie d'un Parisien. Un nom à conserver, des héritiers auxquels il transmettrait ses biens, les relations que lui créerait une maison où pourraient se réunir les principales familles du pays, l'ennui des liaisons irrégulières ne furent pas cependant des raisons déterminantes. Dès son arrivée à Bordeaux, il s'était secrètement épris de la reine de Bordeaux, la célèbre mademoiselle Evangelista. Vers le commencement du siècle, un riche Espagnol, ayant nom Evangelista, vint s'établir à Bordeaux, où ses recommandations, autant que sa fortune, l'avaient fait recevoir dans les salons nobles. Sa femme contribua beaucoup à le maintenir en bonne odeur au milieu de cette aristocratie, qui ne l'avait peut-être si facilement adopté que pour piquer la société du second ordre. Créole et semblable aux femmes servies par des esclaves, Madame Evangelista, qui d'ailleurs appartenait au Casa Real, illustre famille de la monarchie espagnole, vivait en grande dame, ignorait la valeur de l'argent et ne réprimait aucune de ses fantaisies, même les plus dispendieuses, en les trouvant toujours satisfaites par un homme amoureux qui lui cachait généreusement les rouages de la finance. Heureux de la voir se plaire à Bordeaux, où ses affaires l'obligeaient de séjourner, l'Espagnol y fit l'acquisition d'un hôtel, tint maison, reçut avec grandeur et donna des preuves du meilleur goût en toutes choses. Aussi, de 1800 à 1812, ne fut-il question dans Bordeaux que de monsieur et madame Evangelista. L'Espagnol mourut en 1813, laissant sa femme veuve à 32 ans, avec une immense fortune et la plus jolie fille du monde, une enfant de 11 ans, qui promettait d'être et qui fut une personne accomplie. Quelque habile que fût Madame Evangelista, la restauration altéra sa position. Le parti royaliste s'épura, quelques familles quittèrent Bordeaux. Quoique la tête et la main de son mari manquassent à la direction de ses affaires, pour lesquelles elle eut l'insouciance de la créole et l'inaptitude de la petite maîtresse, elle ne voulut rien changer à sa manière de vivre. Au moment où Paul prenait la résolution de revenir dans sa patrie, Mademoiselle Nathalie Evangelista était une personne remarquablement belle et en apparence le plus riche parti de Bordeaux, où l'on ignorait la progressive diminution des capitaux de sa mère, qui, pour prolonger son règne, avait dissipé des sommes énormes. Des fêtes brillantes et la continuation d'un train royal entretenaient le public dans la croyance où il était des richesses de la maison Evangelista. Nathalie atteignit à sa 19e année, et nulle proposition de mariage n'était parvenue à l'oreille de sa mère. Habituée à satisfaire ses caprices de jeune fille, Mademoiselle Evangelista portait des cachemires, avait des bijoux, et vivait au milieu d'un luxe qui effrayait les spéculateurs, dans un pays et à une époque où les enfants calculent aussi bien que leurs parents. Ce mot fatal, il n'y a qu'un prince qui puisse épouser Mademoiselle Evangelista, circulait dans les salons et dans les coteries. Les mères de famille, les douairières qui avaient des petites filles à établir, les jeunes personnes jalouses de Nathalie, dont la constante élégance et la tyrannique beauté les importunaient, envenimaient soigneusement cette opinion par des propos perfides. Quand elles entendaient un épouseur disant avec une admiration extatique à l'arrivée de Nathalie dans un bal « Mon Dieu, comme elle est belle !»« Oui, » répondaient les mamans, « mais elle est chère !» Si quelque nouveau venu trouvait Mademoiselle Evangelista charmante et disait qu'un homme à marier ne pouvait faire un meilleur choix, « Qui donc serait assez hardi, répondait-on, pour épouser une jeune fille à laquelle sa mère donne 1 000 francs par mois pour sa toilette, qui a ses chevaux, sa femme de chambre et porte des dentelles. Elle a des malines à ses peignoirs. Le prix de son blanchissage de fin entretiendrait le ménage d'un commis. Elle a pour le matin des pèlerines qui coûtent 6 francs à monter. » Ces propos et 1 000 autres répétés souvent, en manière d'éloge, éteignaient le plus vif désir qu'un homme pouvait avoir d'épouser Mademoiselle Evangelista. Reine de tous les bals, blasée sur les propos flatteurs, sur les sourires et les admirations qu'elle recueillait partout à son passage, Nathalie ne connaissait rien de l'existence. Elle vivait comme l'oiseau qui vole, comme la fleur qui pousse, en trouvant autour d'elle chacun prêt à combler ses désirs. Elle ignorait le prix des choses, elle ne savait comment viennent, s'entretiennent et se conservent les revenus. Peut-être croyait-elle que chaque maison avait ses cuisiniers, ses cochers, ses femmes de chambre et ses gens, comme les prés ont leur foin et les arbres leurs fruits. Pour elle, des mendiants et des pauvres, des arbres tombés et des terrains ingrats étaient même chose. Choyée comme une espérance par sa mère, la fatigue n'altérait jamais son plaisir. Aussi bondissait-elle dans le monde comme un coursier dans son steppe, un coursier sans bride et sans fer. 6 mois après l'arrivée de Paul, la haute société de la ville avait mis en présence la fleur des pois et la reine des bals. Ces deux fleurs se regardèrent, en apparence avec froideur, et se trouvèrent réciproquement charmantes. Intéressée à épier les effets de cette rencontre prévue, Madame Evangelista devina dans les regards de Paul les sentiments qui l'animaient, et se dit « Il sera mon gendre ». De même que Paul se disait en voyant Nathalie « Elle sera ma femme ». La fortune des Evangelista, devenue proverbiale à Bordeaux, était restée dans la mémoire de Paul comme un préjugé d'enfance, de tous les préjugés le plus indélébile. Ainsi, les convenances pécuniaires se rencontraient tout d'abord sans nécessiter ces débats et ces enquêtes qui causent autant d'horreur aux âmes timides qu'aux âmes fières. Quand quelques personnes essayèrent de dire à Paul quelques phrases louangeuses qu'il était impossible de refuser aux manières, au langage, à la beauté de Nathalie, mais qui se terminaient par des observations si cruellement calculatrices de l'avenir et auxquelles donnait lieu le train de la maison Evangelista, la fleur des pois y répondit par le dédain que méritaient ses petites idées de province. Cette façon de penser, bientôt connue, fit taire les propos, car il donnait le ton aux idées, au langage, aussi bien qu'aux manières et aux choses. Il avait importé le développement de la personnalité britannique et ses barrières glaciales. la raillerie byronienne, les accusations contre la vie, le mépris des liens sacrés, l'argenterie et la plaisanterie anglaise, la dépréciation des usages et des vieilles choses de la province, le cigare, le vernis, le poney, les gants jaunes et le galop. Il arriva donc pour Paul le contraire de ce qui s'était fait jusqu'alors. Ni jeune fille ni douairière ne tenta de le décourager. Madame Évangélista commença par lui donner plusieurs fois à dîner en cérémonie. La fleur des pois pouvait-elle manquer à des fêtes où venaient les jeunes gens les plus distingués de la ville? Malgré la froideur que Paul affectait, et qui ne trompait ni la mère ni la fille, il s'engageait à petits pas dans la voie du mariage. Quand Manerville passait en tilbury ou montait sur son beau cheval à la promenade, quelques jeunes gens s'arrêtaient et il les entendait se disant « Voilà un homme heureux, il est riche, il est joli garçon, et il va, dit-on, épouser Mademoiselle Évangélista. » Il y a des gens pour qui le monde semble avoir été fait. Quand il se rencontrait avec la calèche de Madame Évangélista, il était fier de la distinction particulière que la mère et la fille mettaient dans le salut qui lui était adressé. Si Paul n'avait pas été secrètement épris de Mademoiselle Évangélista, certes, le monde l'aurait marié malgré lui. Le monde, qui n'est cause d'aucun bien, est complice de beaucoup de malheurs. Puis, quand il voit éclore le mal qu'il a couvé maternellement, il le renie et s'en venge. La haute société de Bordeaux, attribuant 1 million de dot à Mademoiselle Évangélista, la donnait à Paul sans attendre le consentement des parties, comme cela se fait souvent. Leur fortune se convenait aussi bien que leur personne. Paul avait l'habitude du luxe et de l'élégance au milieu de laquelle vivait Nathalie. Il venait de disposer pour lui-même son hôtel comme personne à Bordeaux n'aurait disposé de maison pour loger Nathalie. Un homme habitué aux dépenses de Paris et aux fantaisies des Parisiennes pouvait seul éviter les malheurs pécuniaires qu'entraînait un mariage avec cette créature déjà aussi créole, aussi grande dame que l'était sa mère. Là où des Bordelais amoureux de Mademoiselle Évangélista se seraient ruinés, le comte de Manerville saurait, disait-on, éviter tout désastre. C'était donc un mariage fait. Les personnes de la haute société royaliste, quand la question de ce mariage se traitait devant elles, disaient à Paul des phrases engageantes qui flattaient sa vanité. « Chacun vous donne ici Mademoiselle Évangélista. Si vous l'épousez, vous ferez bien. » Vous ne trouveriez jamais nulle part, même à Paris, une si belle personne. Elle est élégante, gracieuse, et tient au casa réal par sa mère. Vous ferez le plus charmant couple du monde. Vous avez les mêmes goûts, la même entente de la vie. Vous aurez la plus agréable maison de Bordeaux. Votre femme n'a que son bonnet de nuit à apporter chez vous. Dans une semblable affaire, une maison montée vaut une dot. Vous êtes bien heureux aussi de rencontrer une belle-mère comme Madame Évangélista. Femme d'esprit, insinuante, cette femme-là vous sera d'un grand secours au milieu de la vie politique à laquelle vous devez aspirer. Elle a d'ailleurs sacrifié tout à sa fille, qu'elle adore, et Nathalie sera sans doute une bonne femme, car elle aime bien sa mère. Puis il faut faire une fin. Tout cela est bel et bon, répondait Paul, qui, malgré son amour, voulait garder son libre arbitre. Mais il faut faire une fin heureuse. Paul vint bientôt chez Madame Évangélista, conduit par son besoin d'employer les heures vides, plus difficile à passer pour lui que tout autre. Là seulement respirait cette grandeur, ce luxe dont il avait l'habitude. À 40 ans, Madame Évangélista était belle d'une beauté semblable à celle de ces magnifiques couchers de soleil qui couronnent en été les journées sans nuages. Sa réputation inattaquée offrait aux coteries bordelaises un éternel aliment de causerie, et la curiosité des femmes était d'autant plus vive que la veuve offrait les indices de la constitution qui rend les Espagnols et les Créoles particulièrement célèbres. Elle avait les cheveux et les yeux noirs, le pied et la taille de l'Espagnol, cette taille cambrée dont les mouvements ont un nom en Espagne. Son visage toujours beau séduisait par ce teint créole dont l'animation ne peut être dépeinte qu'en le comparant à une mousseline jetée sur de la pourpre, tant la blancheur en est également colorée. Elle avait des formes pleines, attrayantes par cette grâce qui sait unir la nonchalance et la vivacité, la force et le laisser-aller. Elle attirait et imposait. Elle séduisait sans rien promettre. Elle était grande, ce qui lui donnait à volonté l'air et le port d'une reine. Les hommes se prenaient à sa conversation comme des oiseaux à la glu, car elle avait naturellement dans le caractère ce génie que la nécessité donne aux intrigants. Elle allait de concession en concession, s'armait de ce qu'on lui accordait pour vouloir davantage, et savait se reculer à 1000 pas quand on lui demandait quelque chose en retour. Ignorante, en fait, elle avait connu les cours d'Espagne et de Naples, les gens célèbres des deux Amériques, plusieurs familles illustres de l'Angleterre et du continent. Ce qui lui prêtait une instruction si étendue en superficie qu'elle semblait immense. Elle recevait avec ce goût, cette grandeur, qui ne s'apprennent pas, mais dont certaines âmes, nativement belles, peuvent se faire une seconde nature en s'assimilant les bonnes choses partout où elles les rencontrent. Si sa réputation de vertu demeurait inexpliquée, elle ne lui servait pas moins à donner une grande autorité à ses actions, à ses discours, à son caractère. La fille et la mère avaient l'une pour l'autre une amitié vraie, en dehors du sentiment filial et maternel. Toutes deux se convenaient, leur contact perpétuel n'avait jamais amené de choc. Aussi, beaucoup de gens expliquaient-ils les sacrifices de Madame Evangelista par son amour maternel. Mais si Nathalie consola sa mère d'un veuvage obstiné, peut-être n'en fut-elle pas toujours le motif unique. Madame Evangelista s'était, dit-on, éprise d'un homme auquel la seconde restauration avait rendu ses titres et la pairie. Cet homme, heureux d'épouser Madame Evangelista en 1814, avait fort décemment rompu ses relations avec elle en 1816. Madame Evangelista, la meilleure femme du monde en apparence, avait dans le caractère une épouvantable qualité qui ne peut s'expliquer que par la devise de Catherine de Médicis. Odiate et aspettate. Haïssez et attendez. Habituée à primer, ayant toujours été obéie, elle ressemblait à toutes les royautés. Aimable, douce, parfaite, facile dans la vie, elle devenait terrible, implacable, quand son orgueil de femme, d'espagnole et de casa real était froissé. Elle ne pardonnait jamais. Cette femme croyait à la puissance de sa haine. Elle en faisait un mauvais sort qui devait planer sur son ennemi. Elle avait déployé ce fatal pourvoir sur l'homme qui s'était joué d'elle. Les événements, qui semblaient accuser l'influence de sa jetatura, la confirmèrent dans sa foi superstitieuse en elle-même. Quoique ministre et pair de France, cet homme commençait à se ruiner, et se ruina complètement. Ses biens, sa considération politique et personnelle, tout devait périr. Un jour, Madame Evangelista put passer, fière, dans son brillant équipage, en le voyant à pied dans les Champs-Élysées, et l'accabler d'un regard d'où ruisselèrent les étincelles du triomphe. Cette mésaventure l'avait empêché de se remarier, en l'occupant durant 2 années. Plus tard, sa fierté lui avait toujours suggéré des comparaisons entre ceux qui s'offrirent et le mari qu'il avait si sincèrement et si bien aimé. Elle avait donc atteint, de mécompte en calcul, d'espérance en déception, l'époque où les femmes n'ont plus d'autre rôle à prendre dans la vie que celui de mère, en se sacrifiant à leur fille, en transportant tous leurs intérêts, en dehors d'elles-mêmes, sur les têtes d'un ménage, dernier placement des affections humaines. Madame Evangelista devina promptement le caractère de Paul et lui cacha le sien. Paul était bien l'homme qu'elle voulait pour gendre, un éditeur responsable de son futur pouvoir. il appartenait par sa mère au Maulincourt, et la vieille baronne de Maulincourt, amie du vidame de Pamiers, vivait au cœur du faubourg Saint-Germain. Le petit-fils de la baronne, Auguste de Maulincourt, avait une belle position. Paul devait donc être un excellent introducteur des évangélistas dans le monde parisien. La veuve n'avait connu qu'à de rares intervalles le Paris de l'Empire. Elle voulait aller briller au milieu du Paris de la Restauration. Là seulement étaient les éléments d'une fortune politique, la seule à laquelle les femmes du monde puissent décemment coopérer. Madame Évangélista, forcée par les affaires de son mari d'habiter Bordeaux, s'y était déplue. Elle y tenait maison. Chacun sait par combien d'obligations la vie d'une femme est alors embarrassée. Mais elle ne se souciait plus de Bordeaux. Elle en avait épuisé les jouissances. Elle désirait un plus grand théâtre, comme les joueurs courent au plus gros jeu. Dans son propre intérêt, elle fit donc à Paul une grande destinée. Elle se proposa d'employer les ressources de son talent et sa science de la vie au profit de son gendre, afin de pouvoir goûter sous son nom les plaisirs de la puissance. Beaucoup d'hommes sont ainsi les paravents d'ambitions féminines inconnues. Madame Évangélista avait d'ailleurs plus d'un intérêt à s'emparer du mari de sa fille. Paul fut nécessairement captivé par cette femme, qui le captiva d'autant mieux qu'elle parut ne pas vouloir exercer le moindre empire sur lui. Elle usa donc de tout son ascendant pour se grandir, pour grandir sa fille et donner du prix à tout chez elle, afin de dominer par avance l'homme en qui elle vit le moyen de continuer sa vie aristocratique. Paul s'estima davantage quand il fut apprécié par la mère et la fille. Il se crut beaucoup plus spirituel qu'il ne l'était en voyant ses réflexions et ses moindres mots sentis par Mademoiselle Évangélista qui souriait ou relevait finement la tête, par la mère, chez qui la flatterie semblait toujours involontaire. Ces deux femmes eurent avec lui tant de bonhomie, il fut tellement sûr de leur plaire, elles le gouvernèrent si bien en le tenant par le fil de l'amour-propre, qu'il passa bientôt tout son temps à l'hôtel Évangélista. Un an après son installation, sans s'être déclaré, le comte Paul fut si attentif auprès de Nathalie que le monde le considéra comme lui faisant la cour. Ni la mère ni la fille ne paraissaient songer au mariage. Mademoiselle Évangélista gardait avec lui la réserve de la grande dame qui sait être charmante et cause agréablement sans laisser faire un pas dans son intimité. Ce silence, si peu habituel aux gens de province, plut beaucoup à Paul. Les gens timides sont ombrageux, les propositions brusques les effraient. Ils se sauvent devant le bonheur s'il arrive à grand bruit, et se donnent au malheur s'ils se présentent avec modestie, accompagnés d'ombres douces. Paul s'engagea donc de lui-même en voyant que Madame Évangélista ne faisait aucun effort pour l'engager. L'Espagnol le séduisit en lui disant un soir que chez une femme supérieure comme chez les hommes, il se rencontrait une époque où l'ambition remplaçait les premiers sentiments de la vie. « Cette femme est capable, » pensa Paul en sortant, « de me faire donner une belle ambassade avant même que je ne sois nommé député. » Si dans toute circonstance un homme ne tourne pas autour des choses ou des idées pour les examiner sous leurs différentes faces, cet homme est incomplet et faible, partant en danger de périr. En ce moment, Paul était optimiste. Il voyait un avantage à tout et ne se disait pas qu'une belle-mère ambitieuse pouvait devenir un tyran. Aussi tous les soirs, en sortant, s'apparaissait-il marié, se séduisait-il lui-même et chaussait-il tout doucement la pantoufle du mariage. D'abord, il avait trop longtemps joui de sa liberté pour en rien regretter. Il était fatigué de la vie de garçon, qui ne lui offrait rien de neuf. Il n'en connaissait plus que les inconvénients. Tandis que si parfois il songeait aux difficultés du mariage, il en voyait beaucoup plus souvent les plaisirs. Tout en était nouveau pour lui. « Le mariage, se disait-il,
n'est désagréable que pour les petites gens. Pour les riches, la moitié de ses malheurs disparaît. Chaque jour donc, une pensée favorable grossissait l'énumération des avantages qui se rencontraient pour lui dans ce mariage. À quelque haute position que je puisse arriver, Nathalie sera toujours à la hauteur de son rôle, se disait-il encore. Et ce n'est pas un petit mérite chez une femme. Combien d'hommes de l'Empire n'ai-je pas vus souffrant horriblement de leurs épouses? N'est-ce pas une grande condition de bonheur que de ne jamais sentir sa vanité, son orgueil froissé par la compagne que l'on s'est choisie? Jamais un homme ne peut être tout à fait malheureux avec une femme bien élevée. Elle ne le ridiculise point, elle sait lui être utile. Nathalie recevrait à merveille. Il mettait alors à contribution ses souvenirs sur les femmes les plus distinguées du faubourg Saint-Germain pour se convaincre que Nathalie pouvait, sinon les éclipser, au moins se trouver près d'elle sur un pied d'égalité parfaite. Tout parallèle servait Nathalie. Les termes de comparaison tirés de l'imagination de Paul se pliaient à ses désirs. Paris lui aurait offert chaque jour de nouveaux caractères, des jeunes filles de beauté différente, et la multiplicité des impressions aurait laissé sa raison en équilibre. Tandis qu'à Bordeaux, Nathalie n'avait point de rivale. Elle était la fleur unique et se produisait habilement dans un moment où Paul se trouvait sous la tyrannie d'une idée à laquelle succombent la plupart des hommes. Aussi, ces raisons de juxtaposition, jointes aux raisons d'amour-propre et à une passion réelle qui n'avait d'autre issue que le mariage pour se satisfaire, amenèrent-elles Paul à un amour déraisonnable, sur lequel il eut le bon sens de se garder le secret à lui-même. Il le fit passer pour une envie de se marier. Il s'efforça même d'étudier Mademoiselle Evangelista en homme qui ne voulait pas compromettre son avenir, car les terribles paroles de son ami de Marsay ronflaient parfois dans ses oreilles. Mais d'abord, les personnes habituées au luxe ont une apparente simplicité qui trompe. Elles le dédaignent, elles s'en servent, il est un instrument et non le travail de leur existence. Paul n'imagina pas, en trouvant les mœurs de ces dames si conformes aux siennes, qu'elles cachassent une seule cause de ruine. Puis, s'il est quelques règles générales pour tempérer les soucis du mariage, il n'en existe aucune, ni pour les deviner, ni pour les prévenir. Quand le malheur se dresse entre deux êtres qui ont entrepris de se rendre l'un à l'autre la vie agréable et facile à porter, il naît du contact produit par une intimité continuelle qui n'existe point entre deux jeunes gens à marier et ne saurait exister tant que les mœurs et les lois ne seront pas changées en France. Tout est tromperie entre deux êtres près de s'associer, mais leur tromperie est innocente, involontaire. Chacun se montre nécessairement sous un jour favorable. Tous deux luttent à qui s'opposera le mieux, et prennent alors d'eux-mêmes une idée favorable à laquelle plus tard ils ne peuvent répondre. La vie véritable, comme les jours atmosphériques, se compose beaucoup plus de ces moments ternes et gris qui embrument la nature que de périodes où le soleil brille et réjouit les champs. Les jeunes gens ne voient que les beaux jours. Plus tard, ils attribuent au mariage les malheurs de la vie elle-même, car il est en homme une disposition qui le porte à chercher la cause de ses misères dans les choses ou les êtres qui lui sont immédiats.